Bonjour, je vais vous parler donc de la bibliothèque royale qui est un véritable réservoir pour le domaine public et plus particulièrement du dépôt légal qui est un mode d'acquisition du futur domaine public. Alors je vais vous faire un petit peu voyager, on va partir très succinctement parce que je n'ai que tout à peine un quart d'heure pour vous parler de cela. Attends, je vais vous faire voyager les visages et nous allons aller en Égypte, ensuite à Blois, à Madrid, à Vienne, à Paris, peut-être même à Lisbonne ou à Londres, on verra si j'ai le temps. Et à propos de temps, je vais aussi vous faire voyager dans le temps. Donc nous n'allons pas rester en 2016, nous allons partir dans l'Antiquité. Voilà, tu peux mettre la diapositive suivante. Et nous sommes à la bibliothèque d'Alexandrie, qui est définitivement détruite en 642. La bibliothèque d'Alexandrie, c'est la base du dépôt légal tel que nous le connaissons de l'Antiquité, c'est-à-dire que tout écrit qui arrivait en Égypte était confisqué par les scribes de la bibliothèque d'Alexandrie. Ils étaient recopiés et on rendait une copie au propriétaire qui avait été spolié de son original. Alors, c'est une bibliothèque qui était accessible aux esclaves et aux affranchis qui étaient lettrés, et aux maîtres, plus aux femmes. Et ici, on voit une représentation de la physicienne Hypatie. Le problème, c'est que les chrétiens et puis les musulmans vont passer par là, et que le domaine public constitué par ces rouleaux de manuscrits va partir en fumée. Tu peux changer. Il faudra attendre le XVIe siècle avec François Ier, roi de France, pour qu'il, par l'ordonnance de Montpellier en 1537, crée un dépôt royal. En fait, le roi François Ier se trouve devant un double problème. C'est la multiplication de l'écrit grâce à l'imprimerie à caractère mobile de Gutenberg et la réforme protestante. Avant cela, les écrits étaient essentiellement religieux. Il y avait bien un petit peu de littérature, mais ça ne représentait pas l'essentiel de l'écrit. Et c'était l'Église qui se chargeait de la censure. Maintenant, avec le développement de l'imprimerie et le développement en plus des écrits séditieux des protestants, il va vouloir pouvoir voir ce qui est écrit dans son royaume et pouvoir éventuellement l'interdire. Mais il y a déjà une notion patrimoniale, puisqu'il dit « Nous avons délibéré de faire retirer, mettre et assembler en notre librairie tous les livres dignes d'être vus, qui ont été ou qui seront faits, compilés, amplifiés, corrigés ou amendés de notre temps, pour avoir recours aux dix livres, si de fortune ils étaient si après perdus de la mémoire des hommes. » Donc nous sommes déjà dans le domaine patrimonial et nous sommes déjà dans le futur domaine public. Tu peux aller à la diapositive suivante. Et ici, maintenant, nous revenons en Belgique avec Philippe II d'Espagne, qui, en 1559, va créer la bibliothèque royale. Tu peux aller à la suivante. Et en 1594, donc une vingtaine d'années plus tard, l'archiduc Ernest, qui est gouverneur des Pays-Bas, va, par une ordonnance, créer un dépôt royal. Donc il va demander aux libraires, qui sont les imprimeurs, on ne parle pas des auteurs, les auteurs n'ont pas de droits à ce moment-là, ce sont les libraires qui ont des droits, de déposer chaque fois un exemplaire de leur livre à la bibliothèque, enfin, au dépôt royal, à la bibliothèque royale de Philippe II. C'est aussi à des fins de censure, bien entendu, mais également patrimoniale. Alors, il y a le comte Pedro de Fuentes, qui est éphémère gouverneur des Pays-Bas en 1595-1596, mais il parvient à faire une ordonnance aussi sur le dépôt légal, demandant deux exemplaires, un pour la bibliothèque royale de Madrid, parce que le roi est quand même à Madrid la plupart du temps, et un exemplaire qui va rester ici à Bruxelles, à la bibliothèque royale. Et il va préciser dans une ordonnance que les ouvrages, les deux exemplaires, pourront être reliés en cuir noir, ou bien en cuir jaune, ou bien en cuir rouge, les couleurs de la Belgique. Alors, nous allons passer maintenant un peu plus loin à Charles de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas. Il ne s'agit plus des Pays-Bas espagnols, mais des Pays-Bas autrichiens. Et en 1559, il va exiger non plus deux exemplaires, mais un troisième exemplaire, trois exemplaires. Un pour la bibliothèque de Vienne, bien entendu, où se trouve l'empereur. Un exemplaire pour la bibliothèque de Bruxelles et bibliothèque royale de Bruxelles et un exemplaire pour l'université de Louvain. Alors cet exemplaire de l'université de Louvain va être consultable par tous les étudiants qui sont là. Donc on est un petit peu dans le domaine public, il y a une diffusion. Les droits d'auteur n'existent pas, les libraires ont un privilège, mais pour un temps relativement restreint. Alors, en 1772, Charles de Lorraine va ouvrir la bibliothèque royale au public, et là, nous sommes de nouveau de plein pied dans le domaine public. Tu peux changer. Alors là, il y a un petit couac qui intervient, c'est la Révolution française, qui en 1790 abolit le dépôt royal parce que c'est la censure, c'est épouvantable, ils ne vont pas du tout du côté patrimonial des intentions de François Ier, mais ils vont très vite rétablir en 1793 un dépôt volontaire, c'est un dépôt probatoire, et en fait, il s'inspire de la loi anglaise du début de la protection des droits d'auteur, et pour qu'un auteur puisse attaquer quelqu'un en plagiat et se défendre, il va falloir faire preuve que l'on est bien l'auteur, et on est auteur en déposant volontairement un ouvrage auprès de la bibliothèque en France. En 1795, les Pays-Bas belgiques sont annexés. Abolition, bien sûr, du dépôt royal autrichien. Dépôt volontaire probatoire, mais non plus à Bruxelles. Nos livres partent à Paris. Mais le vieux fonds de la Bibliothèque royale de Bruxelles passe à la Bibliothèque départementale de la Dyle. Il faut préciser, malgré tout, qu'une partie, la partie la plus intéressante, de la Bibliothèque royale de Bruxelles a été pillée par les révolutionnaires. Enfin, pillée par les révolutionnaires, ne croyez pas que c'est un soldat qui arrive, qui dit « Oh, ce bouquin-là me plaît, oh, quelle belle reliure, je vais le prendre, je le mets dans ma besace. » Non, ce sont en général des moines défroqués qui accompagnent les armées de la République et qui disent « Il faut passer par telle ville ou bien par tel quartier, il y a une bibliothèque qui serait intéressante à spolier. » Et donc les généraux vont faire bouger certains détachements en fonction de la richesse des bibliothèques. En 1810, Napoléon crée un nouveau dépôt légal, mais ce sera à Paris, et ici c'est dans un cadre tout à fait sensorial, puisqu'il faut veiller au grain et qu'il n'y ait pas trop d'écrits anti-napoléoniens, mais également patrimonial. Napoléon a un très grand sens de l'État. On peut dire que c'est le plus grand souverain de France depuis Louis XIV. Alors, tu peux aller à la diapositive suivante. Alors, nous étions un moment bourguignons, nous avons été espagnols et puis autrichiens, on est passé sous souveraineté française avec les révolutionnaires, avec Napoléon. Maintenant, le traité de Vienne va nous faire basculer dans l'escarcelle hollandaise. Et Guillaume Ier, en 1815, quand il prend la souveraineté sur sur la Belgique, l'espace belge, va continuer à utiliser la notion de dépôt légal napoléonien, mais en 1817, il l'abolit pour avoir un dépôt volontaire, à nouveau probatoire, c'est l'influence anglaise. Il y aura trois exemplaires qui seront demandés pour le ministère des Affaires intérieures. Tu peux aller à la suivante. Et en 1830, la révolution, la nôtre cette fois-ci, la bonne. on continue le système hollandais. On ne peut pas tout changer comme ça. Et donc, on continue petit à petit. En 1834, l'État belge rachète plusieurs collections privées, de collections de livres qui sont privées, se demande ce qu'il va en faire, et puis crée en 1837 la Bibliothèque royale de Belgique. Bibliothèque royale de Belgique est seulement ouverte au public 2 ans après, en 1839. Et en 1840, il y a une loi qui va dire que les 3 exemplaires du ministère de l'Intérieur sont toujours obligatoires dans le cadre du dépôt probatoire, mais il y a 1 exemplaire qui va rester au ministère et 2 exemplaires qui vont être versés dans les fonds de la Bibliothèque royale, 1 pour la conservation, donc pour le futur domaine public, et un exemplaire qui va être dévolu aux échanges internationaux. Et nous allons échanger avec la France, avec le Portugal, je vous avais parlé de Lisbonne, des ouvrages belges contre des ouvrages portugais. Et c'est ainsi que nous avons, ici à la Bibliothèque royale, un dépôt français, un fonds portugais. Nous avons des livres allemands, des livres anglais et bien d'autres encore. En 1886, c'est la fin du dépôt volontaire probatoire. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette bête convention de Berne qui vient organiser juridiquement la protection des auteurs. C'est le droit d'auteur qui va primer. Et nous, on se retrouve sans avoir ces deux exemplaires qui venaient chez nous et qu'on pouvait échanger et on pouvait enrichir nos collections. Ben non, patatras, 1886, cette convention de Berne, mais tout par terre. Alors, tu peux aller à la suivante, mais en 1966, grâce à Baudouin, nous avons la création d'un dépôt légal patrimonial. Alors, je voudrais bien vous faire la petite réflexion que de 1795, quand la Belgique est annexée à la France, on n'a plus de dépôt légal belge. Et en 1795 à 1966, il y a un trou d'environ 175 ans. Alors, nous récoltons à partir de 1966 un exemplaire. Des monographies publiées en Belgique, des périodiques, pour autant qu'ils paraissent, ça c'est la loi, c'est assez difficile à comprendre quelquefois, qu'ils paraissent moins d'une fois par semaine. Donc on ne va pas avoir dans le dépôt légal automatique les journaux, les quotidiens, mais il est prévu dans la loi que l'on puisse prendre contact avec les éditeurs et leur dire, voilà, nous voulons le dépôt légal de vos journaux. Et c'est ainsi que nous avons tous les journaux, tous les quotidiens publiés en Belgique depuis 1966, y compris dans leurs différentes éditions. Je ne vous dis pas la place que cela prend à l'époque où Le Soir, La Libre Belgique et d'autres journaux de standard publiaient 5 à 6 éditions par jour. Ça faisait ce qu'on appelle un paquet monstrueux de journaux. Alors, le dépôt légal cherche bien entendu à être exhaustif, mais il y a un tas d'éditeurs qui ne sont pas au courant. Alors, j'ai parlé des éditeurs, il faut dire un mot sur les auteurs. Les auteurs sont également tenus au dépôt légal. Sachez-le quand vous écrivez un livre, mais qu'il est publié à l'étranger. Un livre qui va être publié chez Lafond, chez Gallimard, que ce soit un livre, un recueil juridique ou un roman, va bien sûr être déposé par Gallimard à la BNF au titre du dépôt légal. Mais ici, nous n'avons aucun moyen de pression pour demander aux éditeurs français de venir nous déposer un ouvrage. Mais la loi prévoit que l'auteur belge, domicilié en Belgique, est tenu de déposer un exemplaire au dépôt légal. En 2006, on va passer au dépôt des textes numériques sur support, clés USB, CD, CD-ROM, DVD, etc. Et ma collègue Sophie Van de Poncel va vous parler de toute la problématique qui est relativement nouvelle du dépôt numérique. En 2008, on va passer d'un exemplaire papier à deux exemplaires papier, un exemplaire de conservation pour les générations futures et un exemplaire de consultation. On dirait, mais pourquoi en avoir deux? Ce n'est rien. J'étais dimanche dernier. Pourquoi en avoir deux? En fait, on s'est aperçu qu'il y a énormément d'étudiants qui viennent consulter des ouvrages chez nous et qu'à la longue, il y a une certaine usure. Et donc, on a décidé d'avoir un second exemplaire vraiment auquel on ne touche pas et qui sera destiné aux générations futures et donc aux futurs domaines publics. Voilà, je vous remercie.
Merci Michel, bonjour à tous. Donc, comme Michel vient de le dire, moi je vais prolonger son propos par rapport à une composante du dépôt légal qui est celle des publications électroniques, qui est non moins des moindres et tellement, je vais dire, contemporaine et d'actualité. Alors, quand on est venu nous demander, tiens, Michel, Sophie, est-ce que vous pourriez venir nous parler un petit peu du dépôt légal dans le cadre de la journée du domaine public, je me suis posé la question, oui, évidemment, ça a du sens, il y a un lien, c'est certain, mais il faut maintenant que je le matérialise et que j'y pense, tiens, comment est-ce qu'on peut vraiment faire ce lien on s'est vraiment, Michel et moi, posé la question. Donc on se pose aujourd'hui la question avec vous, tiens, quel est réellement ce lien avec ce fameux dépôt légal qui n'a rien de sexy, rien d'agréable, qui est une loi, qui est une contrainte pour les éditeurs, pour les auteurs, enfin moins pour les auteurs que pour les éditeurs, parce que les auteurs en général ont beaucoup de bonheur et de plaisir, et c'est vraiment symbolique de venir pour eux déposer leur exemplaire au dépôt légal, parce que c'est vraiment un acte officiel qui les élève au rang d'auteur, je vais dire, alors que les éditeurs, ben, évidemment, c'est toujours quelque part deux exemplaires qui vont être déposés ici gratuitement, vous rendez compte, gratuitement, deux exemplaires pour chaque publication. Donc voilà, comme j'ai dit, on s'est vraiment posé la question sur quel est ce lien. Alors, la première question, tiens, c'est quoi le dépôt légal électronique? C'est quoi exactement? Une petite définition, on va vraiment en parler un peu plus, je vais dire, précisément. Alors, il s'agit du dépôt légal pour les publications électroniques. Il existe, sur support existe déjà. Donc, on peut faire vraiment une distinction entre deux types de publications électroniques, les publications qui sont online et les publications qui sont offline. Alors, les publications offline, aujourd'hui, font déjà l'objet d'une obligation légale de dépôt. De quoi il s'agit réellement, Michel l'a dit, donc ce sont toutes les publications électroniques sur support, CD, CD-ROM, clé USB. On a actuellement déjà une vraie politique de conservation par rapport à ces supports. On est en train de backuper clairement le contenu parce qu'évidemment, les CD qui ont déjà 10, 15, 20 ans ont une durée de vie, comme vous savez, qui est extrêmement limitée en termes de support. Après 10 ans, en général, on n'arrive plus du tout à les lire. Donc on a réellement commencé à sauvegarder le contenu, avec des anecdotes comme celle-ci. Récemment, on a mis un CD dans le lecteur CD pour procéder à sa conservation, à son enregistrement. Le CD, donc le matériel, a explosé devant le lecteur, parce que voilà, il était, je ne sais pas, quelque chose s'est passé. On a un métier quelque part à risque chez nous aussi. J'aime bien raconter cette anecdote parce qu'on engage souvent des étudiants pour faire ce travail. C'est un travail de longue haleine, assez fastidieux, qui demande pas mal d'attention et effectivement ça se fait. Donc dans ce cadre-là, on participe aussi à préparer quelque part le passage des données vers la conservation, vers le domaine public. Donc cet aspect-là du dépôt légal existe déjà parmi le loi donc de 96, qui est une adaptation de la loi de 66. Alors, elle n'existe pas encore sous forme obligatoire pour les publications en ligne, donc toutes les publications qui sont sur le net, que l'on peut télécharger. Il n'y a rien qui existe. Il y a eu à plusieurs reprises déjà des essais, mais on n'a pas encore réellement abouti à quelque chose. Par contre, pour quand même anticiper la problématique, parce que évidemment, vous le savez, avec l'explosion des données électroniques numériques que l'on trouve sur le net, c'est exponentiel, hein, on parle de chiffres assez astronomiques. On a voulu quand même essayer de récupérer certaines choses en créant il y a une quinzaine d'années un dépôt électronique sur base volontaire. Mais vous savez très bien comme moi, dès que l'on oblige à faire, dès qu'on n'oblige pas à faire quelque chose, en tout cas auprès des éditeurs, ils ne vont pas, en tout cas les éditeurs qui éditent avec un but commercial, parce que c'est quand même toujours des commerçants, ne vont pas spontanément, n'auront pas à dire, tiens, voilà, je veux faire du patrimoine, je veux penser aux générations futures, je veux vraiment faire de la conservation. Ils ne vont pas réfléchir à se dire, je vais venir déposer chacun de mes exemplaires devant ce dépôt volontaire que nous avons mis sur pied il y a une quinzaine d'années. Donc en fait, ce qui se passe, il existe toujours, mais il est complètement dépassé au niveau technologique, ne répond plus du tout non plus aux spécificités techniques et technologiques actuelles. Et donc on l'utilise sous forme, je vais dire, de moissonnage. On va nous-mêmes chercher sur les sites des choses que l'on peut télécharger, que l'on met sur ce dépôt. Donc il vivote pour le moment. Donc on s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas du tout suffisant. On vise vraiment une partie vraiment infime de ce qui existe sur le marché, entre guillemets. Tu peux aller plus loin. Et donc, on réfléchit, on travaille, là maintenant, depuis quelques mois, à un véritable projet de dépôt légal, sur base, je vais dire, obligatoire, pour les publications électroniques. Alors, comme vous le savez, on travaille sur une mission ici, quand même, culturelle. La culture, officiellement, est une compétence, je vais dire, des entités fédérées. C'est un résiduel encore au niveau du fédéral, donc évidemment, avec une telle mission, qui est la mission, effectivement, de la Bibliothèque royale, comme le Conseil d'État l'a rappelé quand on a étendu la loi en 96 aux publications électroniques offline. Mais quand même, il y a lieu de travailler avec des entités fédérées, donc on travaille aujourd'hui sur ce projet de loi, d'un texte, on ne sait pas encore sous quelle forme il le sera, d'extension aux publications électroniques. Tu peux avancer. Alors, c'est quoi l'objectif bien précis? Tu peux avancer. C'est vraiment offrir, avoir un nouveau cadre législatif. Comme je vous l'ai dit, on est obligé de passer par là, même si on travaille sur une collaboration avec les éditeurs, avec le secteur de l'édition, même si on souhaite avoir vraiment un plan de communication avec eux, si on souhaite vraiment avoir un vrai travail de collaboration, les sensibiliser effectivement à l'aspect patrimonial, conservation. Oui, on va peut-être parler à certains, mais à d'autres pas du tout. Donc quelque part, il faut quand même avoir quelque chose qui fixe les choses et qui les oblige à protéger ce patrimoine qui est gigantesque, qui est énorme et pour lequel, pour le moment, on fait des choses, mais pas du tout suffisamment. Alors, une des premières questions quand même que l'on doit se poser quand on parle de publication électronique en ligne et de périmètre, enfin en tout cas de texte de loi, c'est aussi, tiens, quel est le périmètre de travail? Quand on nous parle publication électronique, ça peut être très large, tu peux toutes les faire des fiches, ça peut être très très large, ça peut être un e-book, une base de données, des ressources électroniques, des ressources en ligne, des ressources bibliographiques, des sites web. Ça c'est vraiment un chantier qui est énorme, l'archivage du web c'est aussi quelque chose de problématique. En Belgique, on est, moi j'ai pas peur de le dire, on est nulle part par rapport à d'autres pays qui sont déjà très très loin, qui ont déjà depuis de nombreuses années travaillé déjà sur cette problématique de l'archivage des sites web. Donc c'est aussi une publication, le fait de publier quelque chose sur un site web, le fait de publier un site web, c'est une publication électronique également. Il y a des périodiques électroniques, il y a des articles scientifiques. Là, on peut faire le lien aussi avec la problématique de l'open access. Je ne sais pas si j'aurais été du neutre, c'est une problématique à part entière. Elle est un peu liée aussi, mais ce n'est pas quand même tout à fait la même chose. Donc, il faut quand même bien définir. On doit travailler sur cette question de la définition. Donc, vous l'avez compris, il s'agit clairement d'un patrimoine à part entière, qu'il s'agit de préserver, mais pour moi c'est même plus loin que ça, c'est qu'il faut sauver, parce que vous savez comme moi que ça bouge tous les jours, ce qu'on va trouver aujourd'hui sur le web, peut-être que demain on ne va plus trouver du tout, et qu'il est à tout jamais perdu, puisqu'on n'a jamais été archivé. Donc voilà, il y a quand même déjà des choses qui sont en mouvement et qui sont pour moi, pour les générations futures, pour les historiens, pour les chercheurs, déjà oubliées, déjà perdues. Tu peux avancer. Donc si le dépôt légal électronique prépare et contribue clairement pour moi, je pense que vous l'avez compris également, au domaine public, on peut se demander comment le dépôt légal peut-il être un maillon, peut-il être un outil en soutien à la question du domaine public. Tu peux avancer, tu peux. Alors comment ? En développant clairement une politique pour le dépôt des publications électroniques. Je pense que c'est une politique qui doit être développée à différents niveaux. D'abord, il faut mettre en place des moyens techniques, il faut mettre en place des moyens technologiques, des moyens humains, des moyens juridiques, mais aussi des moyens organisationnels. Donc c'est pas, il ne s'agit pas uniquement de dire « bon, on va mettre un cadre juridique et on va imposer et on va dire « voilà, maintenant il faut le faire ». À côté de ça, il faut quand même pouvoir être capable d'assurer le dépôt, d'avoir tout ce qu'il y a derrière, il faut quand même de la mémoire, des gigas, des machins, enfin, c'est pas comme ça. Il faut aussi pouvoir avoir une réelle politique, comme je vous dis, de préservation à long terme, de pouvoir réfléchir, tiens, comment va-t-on transformer les différents formats à long terme. C'est vrai que le format d'aujourd'hui ne sera peut-être pas lisible dans 6 mois, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Donc il faut assurer cette conservation, cette pérennisation, non seulement du contenu, le contenu en tant que tel, mais aussi l'accès, et aussi les métadonnées, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui permet d'identifier un contenu. Parce que c'est bien de pouvoir avoir accès au contenu, mais il y a aussi toute la façon dont on l'identifie, comment on va le chercher. Parce que même si ici aujourd'hui tout se trouve dans notre tour au livre, dans 14 étages, il faut pouvoir y avoir accès, c'est bien que ce soit là, et si on n'a pas de base de données, d'outils qui permettent de faire des recherches, ça ne sert à rien. Oui, c'est préservé, c'est là, mais si on veut avoir accès au contenu, il faut pouvoir aussi conserver les métadonnées, donc les données sur les données, ce qui est derrière. Donc, comme je le dis, politique de conservation et de pérennisation. Alors, quels sont les problèmes ? Évidemment, il y a plein de problèmes. Toute la question de garantir l'intégrité du document. Tiens, est-ce que le document que l'on a aujourd'hui, quand on va l'ouvrir dans 5, 10, 15 ans, est-ce qu'il ne sera pas altéré ? Garantir réellement qu'on aura le même document. Donc il ne s'agit pas uniquement du contenu, mais c'est la lisibilité, mais c'est aussi, tiens, est-ce que ce sera toujours le même contenu ? Et l'accès. Et aussi toute la question des conditions de conservation, comme je dis, des données et des métadonnées. Donc alors oui, à cette question de base que j'ai posée, je pense que oui, clairement, on peut contribuer. On aide, on a un maillon, on va être, je veux dire, faciliter aussi peut-être l'accès aux publications qui tomberont dans le domaine public. Donc oui, dans le dépôt légal, le futur du dépôt légal électronique contribue à développer le patrimoine commun. Oui, c'est un outil indispensable. On pose clairement des bases. Aujourd'hui, on pose des bases aujourd'hui pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Ça, c'est sûr, on pense réellement à demain, en garantissant un accès du patrimoine électronique belge à court, à long terme, et pour les générations futures. Voilà. Je pense que tout est dit pour aujourd'hui. Merci.
Je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant que la bibliothèque ferme.
10 minutes.
10 minutes. envie d'intervention. Disons qu'on a 5 minutes.
Évidemment, comme toujours, on a trop de choses à dire.
Quelqu'un souhaite intervenir, faire une remarque, poser des questions sur ce que vous avez entendu, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Oui.
Je me demande si une collaboration avec des autres entreprises, comme peut-être Google ou Wikimedia, je ne sais pas, seront possibles avec la bibliothèque.
Pour le dépliage.
Oui.
Alors, je crois que la question, c'est pas à moi de répondre à ça, c'est de la bibliothèque. La question de la collaboration de bibliothèque avec Google est une question compliquée. Il y a des bibliothèques qui, dans le monde, l'ont fait, d'autres bibliothèques qui ont refusé. Il était connu, par exemple, le directeur de la BNF a refusé de collaborer à Google et a plutôt, lui, lancé une croisade, pas anti-Google, mais une croisade pour que les bibliothèques se numérisent et que mettent en ligne leur patrimoine, notamment par le
portail. Mais justement, pour répondre à ce problème aussi de Google qui est là toujours, tout le temps, partout.
Oui.
Et ils ont vu eux-mêmes clairement développer un vrai projet de numérisation des collections, des ouvrages qui étaient tombés dans le domaine public. Il y a toute la question aussi du reprint. Et des différents endroits, mais c'était clairement pour répondre à la question, à cette fameuse question il y a 10-12 ans pour Google, mais voilà, on veut tout numériser, la bibliothèque universelle, c'est nous, on va le faire. Des bibliothèques, mais il n'y a pas que la BNF, je pense qu'il y en a trois, par exemple, je ne sais plus, mais elles sont trois en tout cas, à vraiment être rentrées dans ce projet de numérisation vraiment gigantesque. Nous ici, on a pris, je veux dire, un peu du retard peut-être, il y a 10-15 ans, mais là on l'a clairement, je veux dire, rattrapé, avec déjà la numérisation de nos journaux chez nous qui sont en ligne avec des consultations aussi limitées pour une partie d'entre elles ici tout, mais on a aussi rentré clairement dans cette vaste politique de digitalisation. On n'a pas forcément besoin d'eux. Parce que bon, ça peut quand même être aussi dangereux, on connaît quand même aussi tous les problèmes qu'il y a avec eux. Alors, il ne faut pas les voir comme le grand méchant loup. Je pense qu'il y a des collaborations qui sont possibles et qu'un jour, à un moment donné, il va falloir quand même se parler et pas réinventer l'eau chaude et pas faire peut-être deux fois la même chose. Mais c'est toujours un problème aussi, je pense, aux questions du droit. Et parfois, ils sont aussi un peu cow-boys, dans les façons de faire.
Et les visites, ce n'est pas les mêmes non plus, je pense. Google a clairement un intérêt commercial à numériser ses ouvrages et c'est pas toujours bien numérisé non plus. C'est pas rare quand on lit un ouvrage en ligne Google, voilà, il manque une page ou alors on a juste la citation, on n'a pas le reste. Tandis que nous, dans notre politique, je pense, de numérisation, on a clairement parlé de données, de métadonnées, de données scientifiques. On numérise pas comme ça tout et n'importe quoi. Il y a une raison, tu parlais des journaux. Les journaux, c'était d'abord aussi une visée de conservation, parce qu'il y en a certains qui sont en train de disparaître, parce que le papier est en train de s'acidifier. Et donc voilà, ça a d'abord été une politique de sauvegarde. C'est aussi une politique de mise en accès aussi. Donc je pense qu'on est un service public. Google n'est pas un service public, clairement. Même si on dit aujourd'hui, quand je vais sur Internet, je vais sur Google. Attention, c'est un moteur de recherche, ils ont des visées commerciales, ils ont des... Là, on avait posé la question il y a un an ou deux par rapport au Mondialium, je ne sais pas si encore quelqu'un est parti, je pense, où il y avait aussi par rapport à cette numérisation, etc. Donc, ce sont des domaines assez différents. Maintenant, oui, pourquoi pas des collaborations, mais Google n'a jamais été vraiment intéressé par la Bibliothèque Royale non plus. Donc,
on a vraiment une vraie plus-value à apporter, il y a vraiment quelque chose de... en plus que l'on donne avec une visée effectivement peut-être plus scientifique, plus pointilleuse, mais clairement on a ce public, donc on doit pouvoir répondre aux demandes de tous, mais c'est-à-dire qu'il y a une qualité de travail qui est derrière, qui est assurée. Et surtout, l'État reste propriétaire, toujours, pas propriétaire en tout cas de ce qui a été numérisé, ce qui est ici, c'est un travail qui a été fait en nos murs. Hein. Et qui a été aussi complètement payé par nous tous.
Et c'est vrai que la question du financement de ce travail est très importante. Donc c'est pour ça que, notamment au niveau européen, pour favoriser les bibliothèques numériques, il y a des documents qui poussent un peu vers les partenariats publics-privés, les partenariats entre les bibliothèques et des opérateurs tels Google, mais pas uniquement Google, mais ça pose énormément de questions. Il va de soi qu'avec les finances publiques qui diminue en tout cas pour ce type de service public pour la culture, etc., des bibliothèques ou des fonds d'archives se tournent naturellement vers les privés pour donner les finances nécessaires. Il y a un vrai travail de bibliothécaire que Google ne fait pas. Google n'est pas bibliothécaire.
Oui.
Donc moi, pour revenir sur ça, je n'ai pas beaucoup parlé de Google, mais aussi de parler de Wikipédia. Et là, ce ne sera pas le cas d'une publication dite privée, mais plutôt publique avec un milieu associatif, disons. Et en tout cas, ça pose un peu comme pour moi la question, parce que moi, il me semble qu'un dépôt légal, toutes les publications en ligne, quelque part, on dirait qu'il y a trop. Je ne sais pas, peut-être moi, vous savez mieux que moi, mais ça me semble quand même presque inévitable qu'à un moment donné, il faille avoir du coup une sélection ou une dystopie, on va sélectionner ça et pas ça. Et ça me demande aussi, en fait, qui va faire la sélection? Est-ce que ça va être la bibliothèque? Est-ce que ça va être la publique? Est-ce que ça va être en collaboration avec des gens qui travaillent, qui s'investissent dans l'écriture numérique, qui vont peut-être eux-mêmes nominer des trucs? Ah, ils vont peut-être... Parce que moi, je ne crois pas qu'on peut sauvegarder tout qui est publié.
C'est vrai que c'est une question intéressante qui doit être posée. La sélection, ben, on peut le faire, et on le fait déjà dans le cadre du papier. Puisque déjà dans le cadre du dépôt légal papier, on ne récolte pas tout. On peut le faire, par exemple les publicités, on pourrait le faire, mais on ne le fait pas, c'est à la discrétion du directeur général, du conservateur, voilà. Donc déjà ça sort, on le prend déjà pas. Donc effectivement pour l'électronique, il y aura aussi effectivement une décision, une définition, à dire voilà, on va faire une sélection. Et c'est clair que nous sommes à la source de la sélection, en sachant que, je prends l'exemple de la BNF en France, pour le dépôt légal, le web archiving, c'est sur base de moissonnage, donc ils font eux-mêmes déjà leur sélection. Ils vont eux-mêmes chercher ce qu'ils traînent. Donc il y a un échantillonnage.
C'est les domaines belges ou c'est les
points. En Belgique, ça n'existe pas déjà. La France, l'élection, c'est déjà sur les points FR. Et ils ont déjà prédéfini toute une série de sites qu'ils moissonnent chaque semaine, systématiquement. Ils font une image, ils prennent des images de ce qu'il y a et ils vont chercher aussi les choses qui ont été obtenues. Donc c'est clair qu'on ne pourra jamais être totalement exhaustif. Mais entre ne rien faire et ne pas être exhaustif...
Pour moi, c'est pas la question que je pose. Mais c'est plutôt sur la modalité de sélection. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup comment vous allez faire ça. Vous allez travailler comment, en fait, avec le champ. Ce sera plutôt vous ou...
Mais c'est là que le domaine public peut être intéressant aussi. C'est de se dire, bon, pourquoi est-ce que chaque année, quand les auteurs ont dans le domaine public, on n'aurait pas une politique de numérique visibilité, par exemple, de se dire...
Pour compléter, par exemple, ce qui n'a pas été...
Mais ça, c'est encore autre chose, c'est la numérisation des choses qui existent. Ça, mais ça sera...
Parce qu'à 50 ans après, ça risque d'être un peu trop tard d'aller retrouver justement...
Mais c'est le web d'il y a 70 ans. Ouais. D'il y a, genre, 130 ans.
Ouais, voilà. Mais le traitement des journaux, c'est prendre des photos, c'est pas les remettre en texte, je suppose. C'est juste...
C'est
le travail scientifique qu'on offre aussi, c'est-à-dire que quand on numérise les journaux, il y a cette possibilité-là qui
est très précise. C'est pas une numérisation à l'identique, c'est pas offre cet outil en plus de recherche dans le texte pour des chercheurs, des historiens, est très très précieuse.
Et dans votre timeline, pourquoi est-ce qu'on a des trucs des Moyen-Âge? Dans la bibliothèque, il y a des collections du Moyen-Âge.
Oui, nous avons la librairie de Bourgogne, constituée essentiellement par Philippe Le Bon, et puis alors par Charles Le Téméraire, et puis par Maximilien, qui est empereur germanique, où il y a toujours des manuscrits, et puis alors Maximilien fait la transition entre le manuscrit et l'inclinable. Mais donc nous avons ici à la Bibliothèque royale même des tablettes d'argile en cunéiforme. Donc notre domaine, ce n'est pas uniquement le papier et un petit peu de numérique, et demain beaucoup plus de numérique. C'est toute la production. une petite échelle, hein, nous n'avons que 6 millions de livres ici, mais on ne compte pas des centaines de milliers de cartes et plans, on ne compte pas des milliers de manuscrits, on ne compte pas les tablettes cunéiformes, mais si vous allez vous promener ici dans les librairies, vous verrez un nombre de documents anciens de l'Antiquité ou du Moyen-Âge.
Mais tout à l'heure, on parlait de la barcode. C'est intéressant aussi, c'est par rapport à la numérisation, c'est qu'on a énormément de supports sonores. Mais par exemple, des 78 tours, on va trouver un tourne-disque encore aujourd'hui. Donc ben voilà, ça sont des supports qui ont été... Non, mais je veux dire, ici, pour la consultation, si vous venez et dites, voilà, moi, je veux consulter, OK, vous allez voir le disque. Et donc là, il y a eu toute une politique de numérisation où tous ces supports sonores ont été numérisés, donc sont accessibles aussi. Donc ça, c'est important aussi de se dire qu'il n'y a pas que des livres, c'est déjà pas mal hein, en soi, mais voilà, ça c'est un bel exemple aussi de se dire comment on peut le rendre accessible, ce support. C'est un disque, on ne sait pas l'écouter, on ne va pas mettre ça en salle de lecture non plus. Et donc voilà, ça c'est aussi intéressant de pouvoir utiliser la numérisation dans ce type-là, et pourquoi pas à terme avoir aussi des choses qui sont enregistrées, qui sont disponibles en ligne, et de les avoir chez nous aussi.
Et un monstre de backup.
C'est ce que Sophia disait tout à l'heure, c'est les moyens à mettre à disposition qui sont terribles.
Et des backups réguliers, parce qu'évidemment les formats numériques changent, ce qu'on peut clairement lire maintenant, dans 20 ans on pourra peut-être plus lire, parce qu'on aura plus de systèmes d'exploitation qui permettront de lire. Il y a un effet d'avoir une pénalisation aussi qui implique que, contrairement à des livres, les supports numériques sont courts, sont fragiles en fait, pour cette raison-là. Donc ça complique encore plus
le travail. C'est difficile à conserver.
Des problèmes légaux avec aussi la conservation, parce que c'est illégal de détourner les mesures d'anti-piratage qui
peuvent.
Je pense qu'il doit y avoir des licences.
Ils sont déposés. Quand ils sont déposés sans DRM,
oui, expliquer que ils sont déposés. Les éditeurs doivent déposer sans DRM.
J'avais une question à propos des publications scientifiques. Vous avez évoqué la problématique de l'open access. Est-ce que vous rencontrez des problèmes particuliers avec les éditeurs quand vous êtes dans cette démarche de conservation? Est-ce qu'on vous oppose des pratiques commerciales, des contrats, l'open access?
Non, moi le problème avec l'open access, c'est surtout, alors là c'est, je mets ma casquette de responsable des acquisitions. Effectivement, quand on voit les prix, on sait plus de quoi à ce niveau-là, quand on voit les prix d'éditions scientifiques qui flambent complètement, alors que l'on paye à la fois les chercheurs, le financement vient du public, et que pour avoir accès aux résultats de leur recherche, on doit à nouveau payer, parce qu'ils ont dû publier dans un article ultra prestigieux, je ne vais pas donner de nom, qu'on doit à nouveau payer pour avoir l'accès. Alors là, voilà, ça devient insupportable. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer effectivement un répertoire open access ici chez nous à la Bibliothèque Royale pour les publications, je vais dire, fédérales et les établissements scientifiques fédéraux. Parce qu'évidemment, nombreux d'entre eux, je vais prendre des gens par exemple aux sciences naturelles qui ont déjà publié dans Science. Voilà, il faut quand même qu'on puisse aussi pouvoir récupérer un petit peu.
Pourquoi vous n'avez pas un accord avec les universités? Parce que toutes les universités belges sont en train de développer l'open access et un répertoire institutionnel.
Donc
ce ne serait pas très compliqué de contacter tous les recteurs.
Je suis complètement d'accord.
En disant, voilà, vous développez votre répertoire institutionnel et on voudrait qu'il y ait une sauvegarde automatique qui passe sur un site de la liberté.
Donc ça, c'est
assez facile.
Tu as entièrement raison, c'est vraiment l'idée qui est derrière aussi ce développement de ce dossier-là. Et surtout aussi, s'il y a un dépôt légal électronique, ça va, toutes les publications électroniques vont tomber également dans le temps, vont être obligées. Donc on va faire le lien, ça c'est sûr. Et donc le dépôt légal électronique va être lié directement au dépôt institutionnel des publications fédérales et plus largement les autres. Donc il y aura une vraie négociation à avoir avec les universités, comme tu viens de dire. C'est la meilleure façon de le faire, quoi. C'est naturel.
Je pense qu'on va devoir arrêter, malheureusement, si vous ne voulez pas passer la nuit dans la tête de l'école. Mais le Nova nous attend. Donc, par contre, on va s'appeler au Nova. Si vous voulez recomposer les poèmes de Valérie. Et voilà. Donc, découvrir aussi plus tard dans le film, pour le concert. Merci.